Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Pourquoi, Seigneur notre Dieu, Dieu le Père, pourquoi as-tu prévu, ou du moins accepté, la passion de ton Fils incarné? Et c'est le Christ lui-même qui nous donne la bonne réponse. Il l'a fait sur le chemin d'Emmaüs. Le soir de ce jour unique de la résurrection, il leur dit alors: esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Et nous voyons que Jésus a employé le verbe « falloir ». Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire? Le verbe « falloir », être nécessaire, très important de retenir. Ce verbe choisi par le Christ, n'était-il pas indispensable? Car utile, parce que convenable, parce que bienséant, que le Fils de l'homme, que le Christ souffre tout cela pour entrer dans la gloire. Il faut passer par la croix pour entrer dans la gloire. Pas seulement la sienne, mais à titre de frère aîné d'une multitude de frères. Le Christ passe par la passion, par la mort. Et il nous dit que nous devons passer, nous aussi, par la passion, par la mort. Il avait déjà dit à Gethsémani, lorsque dans le jardin des Oliviers, n'est-ce pas, lors de cette heure amère pour lui, s'il en fut, ce prologue de la passion, lorsque le Christ arrive à suer du sang, inimaginable comme souffrance. Et Jésus, lui, prie comme ceci: que le calice passe loin de moi. Je n'en veux pas qu'il passe loin de moi, si c'est possible. Cependant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. Jésus évoque explicitement la volonté de son Père. Jésus se soumet complètement de son plein gré, pas contraint ni forcé. Les leçons sont constantes lorsqu'on médite la passion. N'importe quel aspect, quel moment de la passion, nous avons des leçons incroyables à apprendre. Et c'est le sujet de notre moment de prière. Le voici, notre attitude face à la volonté de Dieu. Et concrètement, l'abandon. S'abandonner à la volonté de Dieu. Et s'abandonner à la volonté de Dieu, c'est l'accepter, et même si possible, aller plus loin. Pas uniquement se résigner, pas uniquement l'accepter, pas uniquement la suivre, mais même la vouloir, c'est l'aimer plus que la nôtre, comme le Christ le dit, mais non pas ma volonté, mais c'est la tienne que je veux. Ô Père. Et cet abandon dans la volonté de Dieu, on arrive encore plus, on cible davantage le sujet de notre méditation. Cet abandon n'est possible que si nous faisons confiance à Dieu, en qui nous voyons surtout un Père. Un Père. Et c'est pourquoi nous pouvons faire un rappel de cette attitude fondamentale qu'est la confiance. Si tout s'appuie, venons-nous de dire, sur cette confiance. Elle est importante. Un soubassement, un pilier, une pierre de fondation. Comme ces notions sont importantes et essentielles. Confiance, abandon, adhésion à la volonté du Père avant la mienne. Il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonheur possible sur terre si on n'a pas ces idées bien ancrées dans sa conscience, dans sa tête. Nous avons dit que nous allions nous arrêter une seconde par ce terme, confiance. Avoir confiance en Dieu. Et ce qui est lié à une vision de foi. Les deux choses sont inséparables. Je fais confiance à Dieu si j'ai la foi. Soyons certains que tous les jours, ce que nous faisons, ce qui nous arrive, s'inscrit dans le plan de Dieu. Et je commente un petit peu pour un petit peu, non pas prouver, mais pour développer un petit peu cette idée dans la vie spirituelle. Eh bien, c'est intéressant de se poser la question, dans quel sens employons-nous le mot confiance et même le mot foi? Dans quel sens? C'est intéressant. L'étymologie, une fois de plus, nous guide. Toujours éclairante, qui montre des liens très étroits entre plusieurs réalités auxquelles nous ne pensons pas liées entre elles. Mais il faut tenir compte de toutes pour être lucide sur ce que veut dire confiance et foi. De la même famille, c'est-à-dire tout procède du verbe confier. Et confier du latin confidere, c'est-à-dire cum, avec, et fidere, fier. Au départ, l'expression faire confiance appartenait surtout au langage juridique. On remet quelque chose de précieux à quelqu'un, on le confie, justement, en se fiant à lui. On se fie à sa bienveillance, et on dit je te confie ça, on utilise le mot confier, parce qu'on lui fait confiance. Et c'est pourquoi le mot confiance devrait nous inspirer naturellement toujours une certaine solennité. Dès qu'on fait confiance, dès qu'on nous fait confiance, il y a quelque chose un petit peu de sacré dans l'amitié. Trahir la confiance, on sait, c'est un blasphème, quoi. C'est un sacrilège. Dieu est par là. Et c'est quelque chose de très grave lorsqu'on manque et on trahit cette confiance. Et nous ne devrions jamais, autrement dit, en aucune circonstance, utiliser cette action, confier, faire confiance, l'employer à la légère. Vous connaissez peut-être la préparationnaire là, qui font la culture générale et tout ça, donc vous en avez beaucoup. Et vous connaissez certainement la formule de Jean-Paul Sartre, que je ne cite pas à tout bout de champ. La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Je ne veux pas commenter davantage, mais c'est dit. Elle est importante, oui, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Dans l'Église, la confiance, perdre la confiance, c'est catastrophique. Dans l'éducation, parents, enfants, enfants, parents. Dans l'enseignement, avec les profs, les copies, copier, pas copier, surveiller. Dans l'amour, dans l'amitié, dans les affaires, Et on se rend compte avec des nuances bien différentes, bien distinctes, mais l'essentiel est toujours là. Ce quelque chose de sacré dont nous avons parlé, n'est-ce pas? Donc, une autre formule que j'ai notée par là, sans trop de commentaires non plus, mais la confiance ne se réclame pas, elle se gagne. Et là, pour avancer dans notre méditation, on passe à autre chose, mais nous disons que... J'ai oublié, lorsque j'ai dit qu'il y avait la même étymologie, j'ai sauté là, je suis parti ailleurs. Les mots qui sont en lien entre eux, confiance, foi, fidélité, confidence, crédit, croyance. Je me suis arrêté à 6. Mais voyez un petit peu ce qu'il y a là-dedans, le cum fidere, le se fier à, le de s'abandonner à quelqu'un, parce qu'on a dit que la confiance était la base de l'abandon, sur lequel on va arriver tout de suite. Mais là, faire confiance, avoir la foi, je fais confiance à Dieu qui me dit des choses que je ne comprends pas, mais je me fie à lui, sur sa parole. Et je fais plus confiance à Dieu qu'à moi. On va y arriver. La fidélité dans le mariage, s'il n'y a pas la fidélité, c'est une catastrophe dans la famille, entre autres. La confidence entre amis. On fait des confidences à une personne à qui on se fie, à qui on fait confiance. Faire crédit. Oui, même le monde de la banque, oui. Et puis les croyances, en général, donc, pour les religions, ou dans ce sens-là. Je pense que de l'étymologie que nous avons rappelée, cum fidere, avec et se fier à quelqu'un, il y a deux volets très faciles pour la suite de notre méditation et très pratiques. Le premier, vis-à-vis de Dieu, nous sommes réunis là dans cette chapelle pour parler au Seigneur, pour faire le point avec le Seigneur. Petit a, petit b, les deux points pour la suite de notre méditation. Le petit a, Dieu nous fait et nous fera toujours confiance. Consacrons quelques instants, 5 ou 7 minutes à ça, et puis la seconde partie est évidente dans l'autre sens. Dans ce sens-là, Dieu nous fait et nous fera toujours confiance. C'est bouleversant lorsqu'on y pense, que Dieu me fasse confiance. Le fait d'accepter et de savoir d'expérience que Dieu me fera toujours confiance à moi. Et c'est un aspect auquel on pense malheureusement peut-être pas assez souvent. Et pourtant nous avons la foi et nous reconnaissons que nous avons la foi et nous avons reçu une formation chrétienne et ça devrait être presque une évidence. Il est très important de faire confiance à Dieu. Oui, mais plus importante encore est de savoir que Dieu se fie à nous. J'ai cherché à ce propos un mot du saint pape Paul VI qu'il a prononcé, il a écrit dans une encyclique sociale Populorum Progressio au paragraphe 15. Je cite, et je vais retenir surtout deux petits mots, mais qui sont très puissants. Je vais commenter brièvement. Je cite, « Dans le dessein de Dieu, chaque homme est appelé à se développer car toute vie est vocation. Dès la naissance est donné à tous, en germe, un ensemble d'aptitudes et de qualités à faire fructifier. Leur épanouissement, fruit de l'éducation reçue du milieu et de l'effort personnel, permettra à chacun de s'orienter vers la destinée que lui propose son Créateur. » Ça c'est sûr, cette destinée que nous propose le Créateur ne fait que venir gloser, expliquer cette phrase magnifique, cette affirmation capitale. Toute vie est vocation. Mon cher ami, nous pouvons douter de beaucoup de choses, mais certainement pas de notre existence. On est là, on existe. Or, si j'existe, c'est bien parce que Dieu m'a positivement et personnellement voulu. C'est lui, Dieu, qui a créé directement mon âme, selon sa volonté souveraine. C'est Dieu qui a voulu que je ne sois pas dans l'existence un caillou, une grenouille, un cyprès, mais un être humain. Donc parmi les milliards et milliards de milliards d'êtres possibles, Dieu a décidé de m'appeler moi à la vie humaine, puisque je suis un être humain. Et c'est le premier appel, suivi pour nous tous certainement, d'un second appel, la seconde naissance, lors du baptême, lorsque nous avons reçu la grâce, la foi, la vie surnaturelle, l'appartenance à l'Église, cette seconde famille, non plus la famille humaine, mais la famille de l'Église, la famille surnaturelle, dont nous faisons partie. Seigneur, ma vocation, elle est cadrée par ça. Tu m'as créé pour quelque chose dans l'humanité, dans l'Église. À développer dans d'autres sujets, parce que ce n'est pas le nôtre exactement dans cette méditation, mais à retenir. Ma vie est vocation, parce que toute vie humaine est vocation. La seconde idée, ma vie, même avec ses ratages, avec les vicissitudes, Dieu ne souhaite pas mes échecs, mais il les permet. Et mon expérience, je suis un être vivant, on l'a dit, j'existe. Mais là, cette seconde chose, je suis quelqu'un qui rate des trucs, je ne suis pas parfait. Je fais l'expérience aussi de mes erreurs. Et pourtant, Dieu se fie à moi parce qu'il m'a confié un rôle dans ma vie. Et nous avons tous un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Et c'est pourquoi il nous a rendus aptes à prendre certains engagements. Et moi, je fais des choix dans ma vie, le mariage, le travail, la profession, le concours, l'examen. Pourquoi ? Mais justement parce que Dieu me fait confiance, il me dit, tu n'es pas sur des rails, tu n'es pas avec des œillères. Non, tu es libre et tu choisis, je te fais confiance. Quoi que nous puissions en penser parfois. Et c'est pourquoi nous comprenons très rapidement que notre principal ratage dans la vie, le seul qui soit un vrai échec, c'est chaque péché que nous commettons. C'est lorsque je m'écarte de la loi de Dieu, lorsque je ne vais pas dans le sens de bonheur, de fidélité, d'épanouissement que Dieu a voulu pour nous. C'est ça le plan de Dieu. Eh bien, le péché lui aussi a été intégré dans le plan de Dieu. C'est le seul vrai ratage. Mais on peut se rattraper. Il nous pardonne. Toujours. Sans arrière-pensée. Quelles que soient nos chutes, quelles que soient nos erreurs, quelles que soient nos trahisons, quelles que soient les évidences que nous nions. Parce qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes comme celles qu'on est en train de rappeler. Tout ce qu'on dit est évident. Je peux parfois de façon pratique le nier, l'ignorer, le laisser de côté. Et Dieu nous dit, tu as toujours une chance, je me fie à toi, je te donne toujours des chances, encore une chance, tu peux repartir, sois humble, sois prudent, repars. Le péché aussi est intégré dans le plan de salut de Dieu pour nous. Deuxième facette, à notre tour, de toujours faire confiance à Dieu. Un volet magnifique, magnifique, très pratique aussi. C'est sans doute pour éclore et pour faire développer vraiment toutes les potentialités de cette méditation, c'est sur ce point-là, si Dieu se fie à moi, la moindre des choses est que à mon tour, je lui fasse confiance et je peux être parfois étourdi au point de ne pas lui faire confiance. Et cela est possible à condition de ne pas se tromper de confiance. Car sous ce mot, on met des réalités qui ne sont pas toujours vraies ou pas assez précises. Et qui peuvent donner lieu à des malentendus, pouvant entamer notre confiance en Dieu. C'est important de préciser. Permettez-moi de préciser pendant peut-être 5 minutes, c'est pas grave. Ça sera utile, je pense. Parce que il y a, d'après les traités, les spécialistes, et notre expérience le confirme, il y a deux types de confiance. Une confiance, d'abord, dite naturelle, qui est directement liée à la sensibilité. On a une sensibilité plus ou moins développée, on fait confiance plus ou moins spontanément à certaines choses, à certaines personnes, à certaines situations. Donc c'est un sentiment, cette première confiance, en rapport avec le présent, ou plus encore avec l'avenir. De façon presque automatique, on fait confiance à certaines choses. On entend dire, par exemple, les sportifs, les hommes politiques, on leur entend dire « je suis confiant ». Parce que je le sens, parce que c'est dans mes possibilités, c'est dans mes tablettes, c'est dans mes... Donc je pense que, et en règle générale, cela signifie que je me sens avec tous les atouts en main pour pouvoir affirmer que oui, je me sens sûr, et sauf catastrophe naturelle, demain, je pense que demain, 2 plus 2 feront 4 aussi. Donc on est sûr, et on fait confiance que demain, ça va pas changer. Et nous avons cette espèce de confiance et nous n'y pensons même pas. Tu as ton billet, peut-être tu as commencé à programmer des choses pour les vacances là de printemps, tu as déjà ton billet de train, tu as ta réservation, il n'y a pas de grève annoncée, il n'y a pas de gilet jaune en vue, donc pas de souci, en principe je vais prendre mon train, il va partir, j'ai confiance. Demain à telle heure, j'ai fixé rendez-vous à destination, à telle heure j'y serai. Voilà, et on fixe le rendez-vous. Donc, premier type de confiance, spontanée, naturelle, bien. Il y a une seconde espèce de confiance, celle qui nous intéresse, c'est la confiance dite réfléchie. C'est important, parce que c'est celle qui suit un raisonnement, plus ou moins complexe, hein, plus ou moins élaboré, mais qui est nécessaire justement, parce que nous ne ressentons plus la confiance spontanée. Et c'est vrai que dès qu'il y a quelque chose d'inconnu, d'imprévu, des aléas, eh bien nous perdons cette confiance naturelle. C'est dans notre nature. On commence à avoir la tuile, à reculer, à dire « Attends, oui, mais... Attends, mais c'est passé. Est-ce que tu... Non, ouais... » C'est le raisonnement qui doit prendre le relais. Très important. Là, on en parlait avec certains d'entre vous aujourd'hui. Les groupes électrogènes, on pensait de certains dispensaires, hôpitaux, certains pays d'Amérique, d'Afrique, où s'il n'y a pas le groupe électrogène, s'il n'y a pas le minimum de je sais pas quoi, il y a une coupure de courant et l'opération rate, et l'intervention rate, et le je sais pas quoi rate. Donc s'il n'y a pas de groupe électrogène, ben, difficile d'être sûr, de faire confiance que ça se passera. Ou encore, lorsqu'on doit suivre un protocole, un traitement médical qui est un petit peu compliqué, eh bien c'est lorsque c'est pas évident parce que les trucs sont amers, parce que ça nous on est gavé par le goût du médicament et tout ça, et on dit écoute oui d'accord c'est pas agréable tout ça mais ça vaut la peine de te fier au médecin plutôt qu'à tes impressions ou à tes sensations. Fais confiance. Le médecin t'a dit de prendre ça, prends-le. N'arrête pas. Fais plus confiance. Réfléchis au médecin qu'à toi-même, même si tu n'as pas envie, même si tu en as marre. Bien. Dans nos relations avec Dieu, tu l'as bien compris, c'est surtout cette seconde espèce qui compte. Si Dieu nous accorde la première, il y a des gens qui font une confiance, une foi solide, ils ne se posent jamais de questions, ça va tout droit. Eh bien, remercie le Seigneur si c'est le cas parfois. Et ne fais pas la fine bouche, si jamais c'est facile, ne cherche pas la complication, j'aimerais bien avoir des doutes. Habituellement, eh bien, nous ne ressentons rien. Habituellement, nous pouvons même avoir des doutes. Et nous le voyons dans l'évangile, n'est-ce pas? Les apôtres, rien de moins, concrètement. Saint-Pierre, le premier pape, à plus d'une reprise, mais malgré ses doutes, malgré ses hésitations, malgré ses péchés, ses trahisons, c'est très beau de voir cette double réaction extraordinaire pour ne citer que le numéro un, Pierre, le premier pape, le premier successeur du Christ, celui qui a été à la tête de l'Église lorsque le Christ s'en va. Que dit-il? Ça nous fait un bien incroyable. Maître, c'est mon boulot, la pêche. Nous avons peiné pendant toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. C'est magnifique. Deuxième allusion, évocation. Seigneur, on est ému en la visant. Pierre qui reconnaît sa grandeur, mais sa bassesse, et sa petitesse, et sa faiblesse. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, ta parole, voilà, la seule qui soit digne de confiance, c'est ta parole. À qui sinon irions-nous? Il faut les retenir, ces deux arguments de notre confiance vis-à-vis de Dieu. Lorsque l'évidence humaine n'y est pas, faisons d'abord confiance à Dieu. Nous avons peiné toute la nuit, mais sur ta parole, au petit matin, c'est pas l'heure, eh bien, on le fait. Et la pêche est incroyable. Eh oui. Pensons à notre vie ordinaire, et pensons aussi à notre vie extraordinaire, pour certains événements qui peuvent arriver, hein. Des événements qui nous contrarient fortement, parce qu'ils peuvent toucher des points sensibles de notre vie. Là, il faut être prêt à faire confiance, à raisonner, à ne pas réagir spontanément ce que les tripes me disent. Les tripes ne disent rien. C'est l'intelligence qui dit. C'est la foi qui dit. C'est Dieu qui nous dit, appuie-toi sur moi. Mais lorsque la maladie arrive, lorsque des morts inattendues arrivent, des échecs, on en a tous tout le temps. Des problèmes avec je sais pas qui, il est inévitable et très logique que nous soyons troublés, soyons pas surpris lorsque nous sommes troublés, dépassés justement par ces événements. D'où l'importance capitale de raisonner, de se calmer, d'utiliser sa tête, de méditer, de demander conseil, d'avoir un accompagnateur spirituel, de prier. Parce que Dieu se tient toujours près de nous pour nous éclairer, pour nous soutenir, pour nous aider à raisonner. Lorsqu'on perd la tête, désespéré par la douleur, par la souffrance, et on a besoin de revenir en raison. Et lorsque parfois il y a des lois difficiles, il y a des événements difficiles, des événements touchant à la morale, eh bien, la confiance réfléchie est de dire, je pense que l'Église a raison, j'ai cette foi, je m'appuie sur cette foi. Si le magistère de l'Église dit A, B, C, je ferai A, B, C, même si mon instinct, mes réactions, le moment, mes émotions me disent X, Y, Z, eh bien, je dirai A, B, C. Parce que Dieu en sait plus que moi, d'autant qu'il nous a indiqué quel est le bon choix. Le choix de la fidélité à ses révélations. Et tout ce à quoi nous devons adhérer, c'est déclaré, c'est défini. Nous le connaissons, ou nous pourrons avoir recours à quelqu'un qui peut nous le dire clairement. Nous pourrons avoir une confiance absolue en toute situation, en toute circonstance. Et notre expérience, même si tu es jeune, lorsqu'on est plus vieux, nous dit que personne n'est à l'abri des problèmes. Tout le monde a des problèmes tôt ou tard. Et que ces problèmes peuvent arriver même sans crier gare, au moment où l'on s'y attendait le moins. Et là, dans ces cas-là, à qui irions-nous? Répétons avec Saint Pierre cette phrase extraordinaire. À qui irions-nous? À qui pourrions-nous faire confiance? Autrement dit. Et les gens se réfugient, Madame Soleil, les horoscopes et les diseuses de bonne aventure, etc. Et c'est des gens de mauvais conseils. Allez vers quelqu'un, parce que on a déjà donné des gens qui baratinent et qui racontent n'importe quoi. Cessons de nous tromper, cessons de nous prendre pour je ne sais plus qui, par orgueil, par insouciance. Nous appelons régulièrement la Vierge Marie notre espérance. Notre confiance, prions-la de manière habituelle, lorsque tout va bien, et bien entendu aussi, lorsque les problèmes arrivent. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.